tenter de se qualifier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le décryptage de Véronique Rigolet.
Radio G.
Salariés agricoles.
Les élections aux chambres d'agriculture, ça vous concerne.
L'évolution du monde agricole doit se faire avec ses salariés.
Jusqu'au 31 janvier, cultivons notre avenir.
Votez CFTC Agri.
Avec la CFTC Agri, vous allez changer d'avis sur le syndicalisme.
Alors jusqu'au 31 janvier, votez constructif.
Votez CFTC Agri.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présenté par Pierre Benoît.
Ça y est, fin de semaine, et je reprends le flambeau en plus, Noéloine. J'ai réussi à la déloger, ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à reprendre ma place, au moins pour ce soir, pour la suite du programme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce soir, c'est moi qui vais vous accompagner jusqu'à 19h. On va avoir des invités, bien évidemment, des chroniqueurs, mais avant tout ça, un petit aperçu de la semaine prochaine. Lundi et mardi, on sera en culture. Alors, musical d'abord avec le Shabada, qui sera là lundi, et mardi, on sera avec le théâtre du champ de bataille. Et mercredi, on sera aussi en culture, d'ailleurs musical et artistique. On va accueillir le CLEA, le contrat local d'éducation artistique de la ville d'Angers, et on sera accompagné de l'artiste d'or. Voilà, qui nous fera peut-être une exclusivité, qui sait, rester à l'écoute du 101.5 FM. Ce soir, jusqu'à 19h, donc, on va être accompagné de Ox Amis, chargé de communication à la LPO Anjou, Ligue de Protection des Oiseaux. Ensemble, on va parler des sorties nature qui s'annoncent pour 2025. Il y a 120 animations gratuites au programme pour découvrir la belle nature ici dans notre belle Anjou. Ce sera aussi l'occasion de découvrir un petit peu plus de ce qu'est la LPO et de parler des oiseaux. Pourquoi pas? Dans un deuxième temps d'émission, on va parler des portes ouvertes de l'école Petit Dôme au Lion d'Angers. C'est une école qui suit la pédagogie Montessori et sa directrice sera avec nous par téléphone. Bonsoir Charlie.
Salut.
Alors on fait quoi de beau avec la crocro de Charlie ce soir? J'ai cru avoir un petit aperçu, mais il y en a un qui va prendre cher, non?
Non, ça va, mais effectivement, on parle d'abord de mon sujet préféré qui est toi, Pierre Benoît.
Oh, c'est sympa.
Et après, on va parler, effectivement, on va aller faire un petit tour en Amérique.
En Amérique, bah oh oui, yeah. C'est à propos, le mois de janvier très américain, décidément. En fin de parcours, on sera avec Choupi Matoudi, la chronique féline de Topette, qui, je l'espère, ne viendra pas chipper les oiseaux de la LPO. Topette, tous les soirs, c'est parti, 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, on fait un petit point sur l'actualité locale à Angers dans le département. Et c'est avec toi, Camille. Bonsoir Camille.
Salut Pierre Benoît.
On commence ce flash info avec l'actualité majeure de la semaine dans le département, les inondations.
Exactement Pierre Benoît, la situation semble se calmer dans la vallée de Loudon du côté de Segrire en Anjou Bleu. Geneviève Cocro, maire de la commune, se veut rassurante pour l'ensemble de ses citoyens. Elle affirme que toutes les autorités sont déployées pour aider les habitants. Ce jeudi, Vigicru a décidé de rétrograder la vigilance de la rivière de l'Orange vers le jaune. Preuve en est, la dernière mesure de Loudon datant de ce matin se situait autour du mètre, la fin d'un feuilleton de 3 semaines d'inondation pour la commune de Segrire. Le CHU, de nouveau sous le feu des polémiques, cette semaine une nouvelle plainte a été déposée devant le tribunal de Nantes. Les raisons, des préjudices suite à une péridurale. Alors selon Angers Info, une mère de famille souhaiterait se faire indemniser d'une péridurale qui s'est mal déroulée alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Ce nouvel incident fait suite à une affaire qui s'était déroulée la semaine dernière dans laquelle un prothésiste souhaitait se faire rembourser 350 000 euros pour harcèlement moral, car il se considérait payé à ne rien faire.
Le foot était à l'honneur hier soir, mais là on va plutôt parler de Cholet Basket qui assure sur la scène européenne, Camille.
Et oui Pierre Benoît, hier soir les Choletais sont sortis du piège espagnol à domicile lors de la FIBA Europe Cup. Dans une victoire 82-75, les hommes de Fabrice Lefrançois se sont rassurés face à Bilbao. Un plan de match respecté à la perfection et une fin de partie sous tension. Il n'en fallait pas plus aux Choletais pour faire le show. C'est dans le dernier quart-temps que la situation va sourire aux Choletais grâce à un Stephen Smith de Gala. Au classement, Cholet passe leader de sa poule avec un meilleur point average global, donc c'est la différence de points. Prochain match, un déplacement périlleux à Sassari pour terminer cette phase de groupe de FIBA Europe Cup.
Merci beaucoup, Camille. Camille, est-ce que tu aimes les oiseaux, toi? Est-ce que tu t'y connais en oiseaux?
Pas trop, mais c'est le moment de découvrir.
Eh ben oui, c'est le moment de découvrir, puisque c'est notre sujet de la soirée avec notre invité qu'on accueille maintenant.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Ox.
Bonsoir.
Ox Amis, tu es chargé de communication à la LPO Anjou, la Ligue de Protection des Oiseaux. On va parler dans quelques instants des sorties nature, il y a un gros programme et justement ça fait partie de tes missions, justement en plus d'être chargé de communication. 120 quand même, animations gratuites en plus qui vont se dérouler dans le département de Maine-et-Loire. Mais avant tout ça, puisque tu nous fais l'honneur d'être ici avec nous ce soir, on va pouvoir parler peut-être oiseaux et donc LPO aussi. Alors avant de parler de ce qui se fait ici en Anjou, pour comprendre pour le grand public, les personnes qui n'en auraient peut-être jamais entendu parler, la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, à l'échelle nationale, qu'est-ce que c'est, Ox?
Alors, la LPO, c'est une association de protection de la biodiversité qui a été fondée en 1912 à la base pour sauver une espèce d'oiseau qui s'appelle le macareux moine qui vit par exemple dans la réserve des Sept Îles au large des côtes françaises. Et puis en fait, on s'est rendu compte que pour sauver le macareux moine, et il fallait aussi pouvoir sauver ses habitats, pouvoir sauver ce qu'il mangeait. Et en fait, pour sauver tous les oiseaux, il faut pouvoir sauver la nature en général. Donc maintenant, on agit pour toute la biodiversité, donc pas que les oiseaux, même si ça reste un cœur de métier pour beaucoup de nos salariés et de nos bénévoles.
Oui, voilà, ça reste dans le nom, du coup, LPO, mmh. Et d'ailleurs, visuellement aussi, puisque le macareux moine, c'est lui qu'on voit sur le logo.
Ouais, fait, c'est ça.
On peut peut-être essayer de le décrire visuellement, le logo, c'est le carré bleu-blanc, il me semble, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est un fond bleu avec écrit LPO en blanc, et puis deux petits macareux juste au-dessus du LPO. Et nous, du coup, en Anjou, on a une petite bande orange qui dit Anjou, pour préciser qu'on est bien l'association locale.
Voilà, parce qu'il y a des locales donc qui existent, et justement, ça, c'est des histoires un petit peu différentes. Tu parlais de 1912 pour la création de la LPO. En Anjou, c'est un petit peu plus récent, puisque c'est 1991. C'était une ancienne association, hein, c'est ça?
C'est ça. En fait, à la base, c'était donc le GAEO, Groupe Angevin d'études ornithologiques, donc qui a été fondé dans les années 60 à peu près pour étudier les oiseaux et les populations et faire de l'observation. Et puis en fait en 91, on s'est rallié à la LPO, donc on a signé une convention pour représenter la LPO à l'échelle du département. Et du coup, on est devenu la LPO Anjou.
Ox fait très bien son travail, on a l'impression qu'il a toujours été là au début de la création. Charlie, Camille, est-ce que vous connaissiez la LPO? Vous connaissez un petit peu les actions ou c'est flou pour toi, Camille?
Non, pas du tout, là c'est une découverte, ça a l'air d'être un projet passionnant, donc j'ai hâte d'en savoir plus au cours de l'interview.
Et toi, Charlie, t'es un petit peu plus sensibilisé, je crois, à ces questions-là.
Oui. J'aime bien, j'essaie d'avoir chaque année le petit livret avec toutes les sorties. Et j'essaye d'y penser un coup de temps en temps en disant « Allez, regarde, parce qu'il y a des trucs super intéressants à chaque fois. » Notamment, j'avais fait du canoë pour découvrir l'habitat du castor. On a essayé de débusquer le castor. Et à chaque fois, je trouve ça hyper cool, hyper sympa, hyper intéressant. Donc, c'est vraiment des chouettes sorties.
Charlie pourra se faire aussi VRP, du coup, des sorties, des rendez-vous qui vont avoir lieu en 2025 pour la LPO. Mais avant tout ça, parlons des missions. Peut-être ici, on en joue précisément. Ox, tu précisais qu'il y avait pas que les oiseaux, hein, c'est encore dans le nom, c'était le point de départ, mais en fait aujourd'hui la LPO s'intéresse plutôt à l'écosystème d'une manière générale. En Anjou, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que la LPO fait? Il y a des nichoirs, il y a des bénévoles aussi, il y a énormément de monde.
Ouais, on a beaucoup de bénévoles, on a un beau réseau de bénévoles actifs et d'adhérents. On a trois principales missions qui sont l'étude des espèces, donc vraiment faire des inventaires dans des espaces naturels, voir un peu comment s'en sortent les oiseaux, que ce soit des oiseaux d'eau ou des rapaces, etc. On fait du coup de la gestion d'espaces naturels. Donc par exemple sur les espaces naturels sensibles du département, on travaille beaucoup en accord avec le département et avec les communautés de communes par exemple, pour mettre en place des actions qui favorisent la biodiversité dans les espaces naturels sensibles, qui préservent ce qu'on a déjà et potentiellement qui améliorent des choses qu'on a détruites par le passé ou autre chose. Et on fait aussi du coup de l'éducation à l'environnement, donc ça passe par le programme de sortie mais aussi dans les écoles où en fait on a des animatrices qui vont directement dans les écoles pour faire des animations sur des sujets donnés tout au long de l'année et du coup sensibiliser à la beauté de la nature et sa préservation.
On n'en peut plus de découvrir le programme. Hein. Ça fait, on n'arrête pas de parler. On est autour de ce sujet, mais on va le garder au chaud pour l'instant. Ici, en Maine-et-Loire, du coup, on est comment? Est-ce qu'on est plutôt bon élève au niveau de la biodiversité? Est-ce qu'il y a des périls particuliers? Moi, j'ai en tête le râle du Genêt. Je sais que dans les Basses-Vallées en juin, c'était une question importante dans les années 90-2000, ouais. Justement.
C'est toujours une question qui est d'actualité. Le râle des Genêts, il a vu sa population baisser drastiquement. Depuis les années 90, on était à peu près à 2000 mâles chanteurs et on est descendu à environ 50 dans les Basses-Vallées Angevines. Et en fait, on est sur le territoire français. Les Basses-Vallées Angevines, c'est quasiment le dernier endroit où on peut trouver des râles déjeuners en France. Donc, c'est une espèce à fort enjeu. Il y a d'autres espèces à enjeu. Je pense notamment au castor qui, du coup, comme tu le disais, on essaie de le retrouver dans les animations grand public. Et en fait, j'ai des collègues qui travaillent principalement sur le castor pour essayer de voir comment est-ce qu'ils recolonisent les cours d'eau du département. Si on est bon élève, c'est difficile parce qu'on compare pas vraiment aux autres départements ou ce qui se fait dans les autres régions, parce qu'en fait chaque territoire est unique et a sa spécificité, mais oui, nous on sait qu'on a quand même pas mal de missions. On est quand même 27 salariés à la LPO Anjou, donc c'est pas rien, avec pareil plein de bénévoles et des adhérents, et donc on arrive à mobiliser, mais c'est vrai que on est quand même bien aidé des financements publics.
Effectivement, la question était peut-être un petit peu mal tournée, Ox. C'était plutôt de savoir si notre département avait une belle richesse en termes de biodiversité, ça, justement, oui. Parce qu'on a quand même des paysages très variés, que ce soit le nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Du coup, on a cette chance-là, en fait, on en joue d'avoir une richesse aussi du paysage et puis de la biologie.
Ouais, c'est vrai qu'on trouve pas mal d'espèces différentes. Hein. Déjà, rien que quand on regarde les espaces naturels sensibles, dans le département, il y en a 89, c'est pas rien. Plusieurs milieux, hein. Ça peut être des zones humides ou ça peut être des parcs très arborés. Et on a aussi la chance d'avoir dans le Saumurois, dans le Baugeois, un grand système de cavernes et de grottes. Et en fait, c'est super bien pour les chauves-souris. Donc c'est pareil, on a un beau réseau chauves-souris dans le département. Donc c'est vrai qu'on est un peu sur tous les fronts en Anjou.
Camille, un regard innovant, différent de celui que tu portes habituellement sur ton territoire, j'imagine.
Oui, c'est vrai que comme tu as dit, le territoire est très riche et ça nous prend conscience que la nature de l'Anjou est fragile et qu'il faut la sauver et qu'il faut en prendre soin. Et ça vaut aussi pour toutes les espèces, les oiseaux, voilà, toutes les espèces.
Oui, Charlie, vas-y.
Oui, je me demandais, je sais pas si, par rapport aux écrevisses qui, a priori, inondent de plus en plus le coin, c'est quoi l'impact un petit peu que ça peut avoir?
Tu parles des écrevisses de Louisiane, j'imagine.
Ouais.
On est très américain avec toi.
Les écrevisses de Louisiane, c'est considéré comme une espèce exotique envahissante. C'est vrai qu'il y a une. Pour faire simple, il y en a trop. Et du coup, ça nuit au milieu. Donc, après, ça fait pas mal de nourriture pour pas mal d'espèces d'oiseaux. On avait eu le cas notamment, je crois que c'était il y a quelques mois, où il y avait eu des micro-coupures électriques dans le nord du département. Et en fait, les gens blâmaient la LPO. Et en fait, on disait juste, c'est juste qu'il y a beaucoup d'écrevisses. Et du coup, les oiseaux, ils voient qu'il y a des écrevisses dans le coin. Donc, ils se posent sur les câbles électriques. Et donc, ils font des fientes sur les câbles électriques.
Ah ouais.
Ce qui créait des micro-coupures. Mais en fait, à la base de la base, c'est les écrevisses un peu le problème, puisque... Il y en a un petit peu trop dans le département. Ouais. Bon, elles ne sont pas censées être là.
Là, on est parti dans un cas très concret. Et justement, avec tes explications, on en sait un petit peu plus. Et justement, ce sera l'objet des sorties nature. Et on va en parler maintenant dans Topette. Mais avant tout ça, une petite pause musicale. On part en Espagne, Mi Cafetal, d'Eliedas Ochoa. Fétal, Eliades Ochoa, sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette. Je disais qu'on, j'annonçais qu'on partait en Espagne, mais pas tout à fait. Je pense qu'on est plutôt parti en Amérique du Sud. Et on va retourner tout à l'heure en Amérique du Nord, puisqu'apparemment c'est le thème de la chronique de Charlie. Mais avant tout ça, on reste avec notre invité de la soirée, Ox Amis, qui est chargé de communication à la LPO. Anjou, on parlait du coup d'émissions de la LPO au sens large, et puis ici précisément en Anjou, on va parler des sorties nature, promis, ça vient là dans, vraiment dans quelques secondes, mais avant tout ça, Ox, quand même, on n'a pas trop parlé du tes chargés de communication, et entre temps, il y a aussi la tu fais ce programme des sorties nature en Anjou, il y a peut-être d'autres choses te concernant, toi, sur ton engagement, tu es salarié hein, de la LPO.
Salarié de la LPO Anjou. Moi, en fait, j'ai un parcours un peu atypique, puisque je viens pas du monde naturaliste. Beaucoup de mes collègues salariés sont des naturalistes de passion, donc fans des oiseaux, fans des insectes, etc. Moi, j'ai toujours eu une sensibilité à la nature, à l'environnement, des valeurs aussi qui se rapprochent de l'écologie. Et en fait, quand j'ai vu le poste, pour moi, c'était une occasion en or. Ça me permet de faire le travail que je veux faire, mais pour une cause qui me tient énormément à cœur. Donc pour moi, c'est super. Puis, enfin, j'ai toujours adoré les animaux et maintenant, je travaille plus près d'eux qu'avant. Donc c'est super.
Et l'occasion aussi de partager ta passion, justement. Parlons-en donc des sorties nature en Anjou. 120 animations gratuites au total sur l'ensemble de l'année 2025. Devant toi, tu as une plaquette, une brochure, justement.
C'est le programme, ouais, le programme papier.
Il a l'air très dense, alors on va pas pouvoir tout évoquer, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vont se dégager? Quel public va être concerné? À qui on s'adresse?
Alors, on s'adresse à vraiment tout le monde. Que ça soit des experts qui ont juste envie de profiter d'un petit moment en nature en compagnie d'autres personnes, ou aux gens qui n'y connaissent absolument rien et qui veulent découvrir, aux enfants, aux parents, entre amis, c'est vraiment tout le monde est le bienvenu, parce que même quand on pense bien connaître, il y a toujours des choses à apprendre, je pense. Donc oui, non, c'est pour tout le monde. Et puis après on aborde un peu tous les thèmes. On aborde les mammifères semi-aquatiques, les oiseaux bien évidemment, la géologie sur une sortie, les papillons, il y a des fois des animations sur la photo, cette année on n'en a pas mais il y en a déjà eu, donc c'est un programme très large.
Alors, on va demander à Camille quel type d'animation, quelle question tu aimerais, à laquelle tu aimerais avoir des réponses au travers de ces animations. Est-ce qu'il y a déjà une thématique, un sujet qui te questionne, toi?
Alors, il y a beaucoup de sujets, c'est très vaste. J'ai à peu près retenu les principaux. J'ai retenu certains animaux qui m'ont particulièrement marqué. Une journée, comment ça se déroule, en fait? Une animation, comment ça se déroule?
Alors, en fait, on donne un lieu de rendez-vous aux gens qui s'inscrivent sur le site web. Et du coup, en fait, après, c'est les animateurs qui font un peu tout le travail. Soit via des jeux, soit via juste une petite balade, soit un point d'observation. Par exemple, pour les animations au bord de la Loire, on se pose au bord de la Loire, on sort les longues vues. Et puis en fait, on observe les oiseaux qu'il y a, et puis les animateurs et animatrices donnent un peu des fun facts sur tel oiseau, telle espèce, le milieu. Et du coup, en fait, on sort de la sortie, on a vraiment couvert les bases de la nature à cet endroit-là, quoi.
L'idée, c'est d'avoir de prendre la porte d'entrée de l'émerveillement, de la beauté des choses,
ouais,
ensuite
de la
pour aller sensibiliser
aussi. Ouais, parce qu'on peut être curieux sans forcément s'émerveiller. L'émerveillement, ça marche beaucoup avec les enfants, parce que ils s'émerveillent un peu de tout et de rien. Mais même pour les adultes, en fait, on peut retrouver cet émerveillement via la curiosité, de juste se dire ah mince, mais je savais pas en fait qu'il y avait ça, et waouh, mais c'est incroyable. Donc ouais.
Camille?
Non, oui, je disais, en général, dans vos animations, il y a combien de personnes, en fait? Les jeunes, est-ce que c'est des groupes d'école?
Enfin, non, même pas. En fait, c'est des, je pense, les gens qui s'inscrivent le plus, c'est des familles. Okay. Donc, ça va être des parents qui viennent avec des enfants de 5-6 ans ou avec des ados.
D'accord.
Moi, je sais que j'y vais avec mes amis, par exemple. Et non, en fait, c'est vraiment ouvert à tous. C'est pas forcément scolaire, parce que du coup, d'accord, le scolaire, c'est un autre type d'animation. Mais du coup, ouais, non, c'est un peu tout le monde qui vient.
Il y en a pour tout le monde, du coup, ça c'est le... Est-ce que toi, il y en a une qui te... Voilà, une animation phare, star, là, qui va arriver prochainement, qui te semble importante de ne pas louper quand on est un petit peu noob, comme on pourrait dire dans d'autres milieux, qu'on a envie de découvrir, de comprendre un petit peu, mais qu'on ne sait pas par quel bout prendre, on ne sait pas vraiment ce qui nous intéresse. Est-ce que toi, tu as une animation un petit peu à conseiller dans le programme?
Alors, j'en aurais plusieurs à conseiller. Déjà, celles qui font partie des grands événements de l'année, comme les Journées mondiales des zones humides ou la Nuit des chauves-souris, elles sont à pas louper pour moi, parce qu'on en apprend vraiment beaucoup en une animation. Après, bah, il y a les animations canoë-kayak, comme tu disais tout à l'heure, Charlie. Moi, celles-ci, je les ai faites, j'en ai fait plusieurs et je les trouve super. Enfin, c'est très relaxant d'être en canoë-kayak et d'avoir quelqu'un qui nous apprend des choses sur la nature et de se balader sur l'eau, de voir un peu la vie qui se trouve autour de nous alors qu'on n'y fait pas forcément attention tous les jours. Donc ouais, non, celles-ci, elles sont à pas louper. Et ouais, non, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur selon ce qui l'intéresse.
Est-ce qu'on peut faire les 120, tu penses?
C'est pas possible en termes de planning, parce qu'il y en a qui se passent en même temps unes que les autres, mais avec beaucoup de volonté, je pense qu'on peut en faire une 90 à peu près, mais beaucoup de volonté et de temps libre.
Donc il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Camille, décidément, est très curieux.
J'avais une question. Sujet. Tu parlais des chauves-souris. C'est une espèce qui est quand même assez sensible mondialement. C'est dans quel coin qu'on peut les apercevoir en Anjou?
Un peu partout.
D'accord, un peu partout.
C'est pour te donner une idée, il y en a même à la place La Rochefoucauld.
Carrément.
Donc dans le centre d'Angers, qui est hyper bétonné et tout ça, mais en fait, vu qu'il y a des allées de platanes, eh ben on a des données de, donc c'est une espèce qui s'appelle la noctule commune. C'est une espèce qui est en déclin dans le département et bah on en retrouve plusieurs au centre d'Angers.
Okay.
Donc après, bah évidemment, dans les parcs, les grands parcs type le parc de l'île Briand, il y en a, l'étang Saint-Nicolas, on peut en trouver un peu partout.
Ah bah attends, Charlie, lève la main, vas-y, on t'entendait pas.
Est-ce que les gens viennent un peu pour voir les animations des chauves-souris un peu? Parce que je sais que j'entendais il n'y a pas longtemps qu'il y avait un peu une mauvaise réputation un peu des chauves-souris et que du coup on s'en alerte pas trop alors que ça diminue pas mal.
Elles ont bon dos les chauves-souris, mais non, là, on a un événement, alors c'est un événement national, la nuit de la chauve-souris qui est... fin août, le grand week-end d'animation, c'est fin août. Et non, nous, nos animations, elles sont toujours complètes.
Ah, super.
Ouais. On a des animations un peu où on se balade, notamment à Place La Rochefoucauld, ou alors, moi, j'ai fait celle à l'île Briand, et en fait, c'était un spectacle en partenariat avec une troupe de théâtre. C'est super, parce que ça permet de changer notre regard, et en même temps, on a le droit à un ballet de chauves-souris au coucher du soleil, c'est incroyable.
Bon, je pense qu'il y a deux personnes là qui sont déjà en train de prendre le programme, de regarder le programme sur internet pour une de ces 120 animations. On va redonner les infos pratiques et utiles tout à l'heure en fin d'émission. Donc, si tu restes avec nous, bien évidemment, on aura encore deux trois petites questions sur l'environnement, l'écologie, qu'est-ce qui serait important de retenir, bien évidemment. Mais avant tout ça, puisque Crocro Charlie a son micro d'ouvert, on va passer à la Crocro avec toi.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La Crocro, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ? La Crocro, la chronique de Charlie.
J'adore le hula-hoop !
Ironique, absurde, réfléchi. La Crocro, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté. La fofo, la folie de Charlie.
À quand une chronique de Pierre Benoît, hein ? Parce qu'il m'arrive de manger à Radio G le midi. Non pas parce qu'on vient d'enregistrer l'émission, hein, mais parce que l'ambiance y est excellente. Et pourquoi? Parce que Pierre Benoît, votre animateur enjoué, ou devrais-je dire enjoué, eh bien Pierre Benoît enchaîne blague sur blague. Du coup, ça me donne vraiment envie de voir ce que donnerait une chronique humoristique de Topetman. Sera-t-il aussi drôle qu'Adrien, le chroniqueur du mercredi?
Parce que moi, je ne suis plus dans le game depuis qu'Adrien est arrivé. Pierre Benoît lui a d'ailleurs remis le micro d'humour. Et quand moi, je demande à Pierre Benoît « Comment est ma chronique ?», il répond « C'est plutôt un billet d'humeur. » Une façon polie de dire que c'est de la merde. C'est aussi pendant la pause déjeuner que Nolwenn, première sur l'info, m'a appris l'existence des fermes à audience. Alors c'est sur le même principe qu'une ferme à trolls. Des centaines de Chinois sont payés pour se connecter à des radios pour en gonfler l'audience. L'entreprise chinoise s'appelle Yes Uyghur. C'est comme ça que Radio Campus fait son audience, m'a expliqué Pierre Benoît. Mais sortons de la radio et allons voir le monde. Make America Bet Again, ça part en live chez Oncle Ben. Les nouvelles aventures de Mickey font flipper. Donald a pété un plomb et a pris le pouvoir. Maintenant, il vocifère dans tous les sens et persécute Mickey et Minnie. D'abord parce qu'il sourit. Et parce que ce sont des wokistes qui soutiennent les femmes, les LGBT et les pandas. Notre ami Dingo, lui, est devenu anxieux. Il essaie de gommer son accent espagnol. Il veut plus qu'on l'appelle El Perro Loco, c'est-à-dire le chien un peu foufou, quoi. Bon, Donald a pris le pouvoir parce qu'il a eu un grand soutien de son oncle Picsou, qui s'ennuyait de nager dans sa piscine d'or. Même son Center Park, avec ses toboggans en émeraude et ses rivières de pièces d'or, ne l'amuse plus. Alors, monseigneur, je vous le donne en mille et mille. Allez, Adrien, fais mieux que ça. Alors, Picsou s'est dit qu'il pourrait donner un peu de sa fortune à ceux qui en ont besoin. Oui, qui en ont besoin pour oppresser les autres gens, surtout s'ils sont en minorité. J'ai clairement vu des histoires plus fun dans le journal de Mickey. Quand j'ai ouvert mon dernier numéro, ça puait. Oh là là là. En est sorti un élan de musc insoutenable. Bon, pendant ce temps-là, Donald continue de brailler. Le pauvre, il est tellement vénère qu'il est devenu orange. Les Chinois ont pris peur en le voyant arriver. Ils disaient « Ah, voilà l'agent orange !» Non, en fait, il blaguait. C'était pour vanner les Vietnamiens. Car les Chinois ont compris que Donald est un épouvantail et ils se sont rappelés qu'ils adorent le canard laqué. Voilà, plus besoin de Netflix. Le journal de Mickey devient quotidien et sensationnel. Je crains que l'American First ne devienne l'American Fist, mais j'espère que le journal de Mickey ne deviendra pas le journal d'Anne Frank. Allez, je vous embrasse, c'était le billet d'humeur de Charlie Delire.
La croco. Ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée, la chronique de Charlie.
Merci Charlie, c'est ce que j'allais dire. C'est un billet d'humeur à prendre au second degré, bien évidemment, un billet que n'a certainement pas censuré Adrien cette fois-là, vu les propos que tu tiens assez cinglants, mais on te retrouvera quand même, rassure-toi, dans deux semaines, et t'es bien évidemment invité à manger un midi quand tu veux à la radio, mais que toi, voilà. On continue dans Topette avec notre deuxième sujet de la soirée.
Topette sur Radio G.
Allez, on continue ce soir dans Topette avec une actualité qui concerne ce samedi 1er février du côté du Lyon d'Angers, puisque l'école maternelle Petit Dôme, avec la méthode pédagogique Montessori, fait ses portes ouvertes et pourront parler avec nous dans l'émission. Nous sommes avec Anne-Sophie Billet, sa directrice. Bonsoir Anne-Sophie.
Bonsoir.
Alors l'occasion ensemble de découvrir cette école, mais aussi de découvrir la méthode de Montessori qu'on connaît souvent, mais parfois on ignore de quoi il s'agit. L'occasion aussi de parler de l'impact que ça peut avoir sur le territoire, qui ça concerne, quels enfants. On a des fois des clichés, des stéréotypes qui tournent autour de cette manière d'apprendre à nos enfants. Mais reprenons les choses dans le bon ordre, Anne-Sophie, si vous le voulez bien. La pédagogie Montessori pour les nuls, d'une certaine façon, les personnes qui ne connaîtraient pas ou alors qui verraient ça de très loin, pour leur expliquer simplement qu'est-ce que c'est.
Simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une pédagogie qui s'adapte à l'enfant, à son rythme de développement. Ça respecte son développement naturel. J'ai pour habitude de donner comme exemple qu'on n'attend pas des enfants qu'ils savent tous à 12 mois marcher. Il y en a qui vont marcher à 10 mois, d'autres qui vont marcher à 16 mois. Et on respecte leur rythme. Il en va de même pour tous les apprentissages. Donc c'est un peu l'objectif de la pédagogie Montessori, respecter le développement naturel de l'enfant, s'adapter à son rythme. Et on va vraiment préparer un environnement qui va permettre à l'enfant d'être autonome, de pouvoir faire par lui-même, en faisant par soi-même. On construit son estime de soi et on construit sa confiance en soi.
Alors, Petit Dôme, c'est une école maternelle, mais la méthode Montessori, elle s'adresse à quels enfants, à quels âges? Est-ce que c'est à tout âge? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Comment ça marche? Qui est concerné?
Alors, c'est Maria Montessori, elle a parlé du développement de l'humain, de 0 à 24 ans, grosso modo, la maturité, c'est la fin de la maturité cérébrale. Pour autant, nous, notre école, elle s'adresse vraiment aux enfants de 3 à 6 ans, parce que c'est une école maternelle. Après, on peut trouver ailleurs sur le territoire des écoles qui proposent, du coup, d'autres ambiances, d'autres classes pour les enfants plus âgés. Et on peut aussi des crèches qui s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans. Nous, notre école, elle concerne le 3 à 6 ans. Et sur le même environnement, en fait, on partage en fait des locaux avec une micro-crèche, justement, Montessori.
Micro-crèche et donc école maternelle par la suite. Alors, il y a les portes ouvertes ce samedi 1er février. Plutôt que de parler de la programmation, présentons l'école. Profitons-en pour présenter l'école. Du coup, là, on commence à en parler. Il y a la micro-crèche à côté. Il y a combien de salles, combien d'enfants au total, combien d'enseignants, d'enseignantes?
Alors, du coup, l'école, sur l'école, il y a ce qu'on appelle une classe, une ambiance. Et donc, c'est juste, et moi-même éducatrice, du coup, au sein de l'ambiance. Je suis accompagnée par 2 services civiques actuellement. Et aujourd'hui, on accueille jusqu'à 13 enfants. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 20 enfants. Donc, c'est pour ça qu'on crée des portes ouvertes afin de dire à tous, si vous êtes intéressés par la pédagogie, venez nous rencontrer, venez visiter les locaux pour voir si ça vous convient, si cet environnement vous donne envie et pouvoir inscrire vos enfants dans notre école.
Ah oui, parce qu'évidemment, on parle des enfants pour cette méthode pédagogique, mais ce sont les parents qui prennent cette décision. Est-ce qu'il y a un profil type de parent qui met ses enfants à l'école Montessori, ou alors vraiment ça concerne un petit peu tout le monde en termes de classe socio-professionnelle, par exemple?
Alors ça concerne tout le monde, tous les parents qui souhaitent peuvent mettre leurs enfants dans la pédagogie Montessori. Il y a une nécessité de payer cette école, puisque ce sont des écoles qui sont hors contrat. Donc forcément, il faut, comme une école privée, il faut payer, mais les montants sont un peu plus élevés, étant donné que ce sont des écoles qui n'ont pas de contrat avec l'État. Il n'y a pas d'aide, de subvention publique. Pour autant, notre école, elle fait ce qu'on appelle des tarifications solidaires, donc c'est en fonction du quotient familial des familles, ce qui permet du coup que ce soit accessible à un plus grand nombre et que ce soit financier ne soit plus un frein. En tout cas, on l'espère.
Et si jamais votre curiosité a été piquée, bien évidemment, il y a les portes ouvertes. Les infos pratiques, avant de se quitter quand même, Anne-Sophie, autour de ces portes ouvertes, ça commence à 10h30, puis ça se finit tranquillement dans l'après-midi?
Alors ça commence à 10h, c'est de 10h à 15h, mais le premier atelier est à 10h30, parce que durant ces portes ouvertes, on propose du coup des ateliers parents-enfants. Donc il y aura des ateliers de musique, lecture de contes et des ateliers fabrication de bombes de graines. Notre école, c'est une école qui est associative, qui est gérée par des familles. Les familles ont une forte implication dans l'école. Donc en fait, c'est à la fois venir rencontrer, du coup moi-même l'éducatrice, mais ça vous permet aussi de rencontrer les familles et d'échanger sur justement cette expérience d'une école familiale, d'une école conviviale, d'une école d'entraide, aussi avec les familles. Pour les aspects un peu plus aussi de lieu, on se situe au 6 impasse Jean Bertin, sur la zone d'activité La Sablonnière au Lion d'Angers. Et si jamais vous voulez nous contacter avant de venir nous rencontrer aux portes ouvertes, vous pouvez nous contacter au 07 84 58 30. Je me permets de répéter, 07 69 84 58 30.
Et ben voilà, le numéro est donné quand même. Pour une dernière question, Anne-Sophie, avant de raccrocher. Les portes ouvertes, c'est aussi l'occasion de briser certains clichés, par exemple, qu'il peut y avoir des stéréotypes qui tournent autour de cette méthode. Des fois, on doit vous regarder un petit peu de travers, non?
Oui, il y a en effet des clichés. Justement, c'est l'occasion de venir nous rencontrer pour nous dire, vous, ce que vous pensez de la pédagogie Montessori, quels sont vos a priori, qu'est-ce que vous en connaissez, et pouvoir échanger, dialoguer sur un peu ces a priori, et voir aussi concrètement qu'est-ce que les parents qui mettent leurs enfants dans une école Montessori en disent, comment leurs enfants grandissent. Ça permet vraiment de casser un peu ces tabous, justement.
Merci beaucoup Anne-Sophie Billet, directrice et puis enseignante, si j'ai bien compris, dans oui. cette école maternelle Petit Dôme au Lion d'Angers, qui fait donc ses portes ouvertes le 1er février de 10h à 15h. Et puis le numéro, on l'a donné un petit peu plus tôt, sinon on retrouve assez facilement le flyer. Merci beaucoup. Topette, c'est fini pour ce soir. Je vois Camille, il est chaud. Hein. Dès qu'il me voit parler, il prend le micro. Au cas où, t'avais un truc à dire peut-être, Camille?
Non, pas spécifiquement. Content d'avoir passé une bonne émission en votre compagnie.
Eh ben, je pense que le plaisir est partagé. Même Charlie a apprécié l'émission. En tout cas, il a apprécié le sujet de la soirée, puisque nous étions avec toi, Ox Amis, chargé de communication à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ça, c'est pour le nom historique. Mais c'est la Ligue de protection de l'environnement, même ouais. pourrait-on dire, et des écosystèmes. Ici, en l'occurrence, en Anjou, on a évoqué quelques-uns. On a surtout évoqué les sorties nature pour découvrir la nature en Anjou, les 120 animations. Tout de suite, parce que je pense que Charlie, ça lui brûle le bout des doigts, et Camille également. Comment on fait pour découvrir le programme et avoir du coup le calendrier des différentes animations Ox?
Alors, le programme, il est disponible en ligne sur notre site web lpo-anjou.org. Il y a aussi des programmes papier un petit peu partout dans les points d'intérêt des villes du département. Donc, ça peut être les mairies, les offices de tourisme, des petits commerces, par exemple les biocoop, etc. Mais bien évidemment, il est imprimé en début d'année et on a des animations qui se rajoutent au fur et à mesure de l'année. Donc, mon conseil, c'est d'aller voir directement sur le site web, comme ça il y a toutes les infos et vous pouvez vous inscrire directement en voyant une anime qui vous plaît.
Et ça, c'est qu'une infime partie des propositions de la LPO, parce que je crois que tu voulais aussi qu'on évoque éventuellement les journées mondiales des zones humides. Je ne sais pas si elles sont incluses dans ces animations.
Elles sont incluses. En fait, c'est un des grands événements de l'année. On en a plusieurs où en fait, c'est des événements à thème. Et du coup, bah là, pour tout le mois de février, on se concentre sur faire découvrir les zones humides aux gens. Par exemple, en mars, ça sera la nuit de la chouette. Donc bah là, c'est faire découvrir les chouettes et hiboux en général. Et puis après, bah, y en a tout au long de l'année. La fête de la nature, le printemps des castors, il y en a plein.
Et la LPO, on peut rejoindre l'association. C'est une association, on peut être bénévole, filer des coups de main, être aussi hébergeur d'une certaine façon, avoir des nichoirs chez soi et tout. Enfin, toutes ces infos aussi qui sont sur le site internet, j'imagine. Et puis, c'est l'occasion, au travers de ces animations, de dialoguer peut-être avec les différentes personnes impliquées au sein de la LPO. D'un mot avant de se quitter rapidement, Ox, qu'est-ce qui serait important de retenir sur nous, notre environnement? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? S'émerveiller? Est-ce qu'on peut faire attention? On jette plus les déchets, heureusement, aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des petits gestes comme ça qui seraient quand même utiles de rappeler?
S'émerveiller, c'est bien. Agir, c'est mieux. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est, dans la mesure du possible, c'est d'accueillir la biodiversité au maximum chez soi. Si vous avez un jardin, essayez de vous renseigner sur comment on installe un nichoir ou comment est-ce qu'on crée une mare pour accueillir un maximum d'espèces. Et puis après, si vous n'avez pas la possibilité, essayez d'adhérer à la LPO ou de donner de votre temps ou de vos compétences pour que nous, derrière, on puisse faire des actions qui préservent vraiment l'environnement.
Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Ox, en tout cas, d'être passé dans Topette ce soir.
Avec plaisir.
On se tient informé des prochaines actualités de la LPO ici sur le 101.5 FM, bien évidemment. Charlie, on se retrouve dans 2 semaines, ou peut-être au cours d'une de ces animations, justement. Toi, il y en a une qui t'a botté, peut-être?
Non. Mais je me rappelle que j'avais aussi fait celle avec le théâtre. Et c'était vraiment cool, un parcours où il y avait, on rencontrait des acteurs et tout. Et ça, je recommande, c'était aussi super.
Et Camille, comme à son habitude, a le micro en main. Camille?
Moi, je vais essayer de m'y intéresser par le futur.
Le dauphin d'Anjou, peut-être, cette animation-là.
Je connais pas cette espèce, mais...
Quand le dauphin sera là, on pourra en rediscuter volontiers. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve lundi prochain avec le Shabada. D'ici là, on se dit Topette. Et surtout, on se quitte avec Choupi Matoudi. À lundi, Topette.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. C'est le matin, un soleil pâle enlumine les toits blancs de Givre. En ce début janvier, tout est figé, tout scintille. Je reviens d'une opération sauvetage de chat. Il est tôt, j'ai encore les yeux qui piquent, le sommeil, le froid ou les deux. Je vous emmène avec moi, on est juste derrière la gare. On entend de loin les annonces sur les quais. Le TGV pour Paris, le TER pour Nantes. Allez, on pousse la porte de ce bar tabac. L'arrière-train, vous connaissez ? Mais si, ce petit café de quartier, au pied du pont piétonnier qui passe au-dessus des voies. Vous situez ? Ça y est, on est entré de l'autre côté du comptoir. Le patron s'affaire tout en nous lançant un bonjour chaleureux. Il fait bon, on va s'asseoir pour un thé ou un café bien chaud. Et soudain, nos yeux croisent d'autres yeux. Sur les murs, des chats nous regardent. Ces chats d'encre et de papier, chats tigrés, noirs et blancs, noirs ou blancs, ces chats nous fixent. Ils sont incroyablement vivants, vibrants. On s'assied et tout à coup, je me demande qui regarde l'autre. Pour cette chronique, j'accueille Olga Dupont, l'artiste qui a donné vie à ces chats. Bonjour Olga, comment vas-tu ?
Bonjour, je vais bien.
Bon alors, ces chats font partie de ton exposition que tu as intitulée « Chats qui trinquent » et que l'on peut retrouver à l'arrière-train jusqu'au 1er février. Comment est née l'idée de cette exposition ?
Eh bien, tout simplement, je connais Véronique qui s'occupe des expositions à l'arrière-train. Mmh. Et lors d'un vernissage, je lui ai proposé d'exposer mon travail.
Oui, je crois que toi et les chats, c'est une longue histoire. Hein.
C'est une longue histoire. Alors, je travaille pas que sur le chat. Mais voilà, je vais exposer sur 2 mois. Et ma première exposition, je voulais la dédier à une personne qui s'occupe beaucoup des chats qui sont à l'extérieur, des chats perdus et tout, et qui s'appelle Leïla. Mm-hmm. Et je voulais faire cette exposition pour montrer son travail et le travail des gens qui s'occupent, qui nourrissent, qui soignent les chats qui sont perdus, qui sont dehors, les chats de la ville.
Oui, bien, on a reçu Leïla, hein. C'était notre toute première chronique, si vous voulez, n'hésitez pas à consulter le replay. En effet, c'est ce que tu indiques dans ton exposition. Alors, c'est principalement des encres que tu présentes.
Alors, il y a des encres, il y a de la gouache, parce que je travaille beaucoup avec la gouache noire, mm-hmm. de la gouache blanche, mais c'est vrai que ce sont surtout des croquis que j'ai faits quand j'étais bénévole à la SPAA d'Angers. Donc ce sont des vrais chats.
Donc c'est vraiment des portraits en fait.
Des portraits, hein?
Et qu'est-ce que tu peux... parce que moi c'est ça qui m'a frappé vraiment en entrant. Ces chats, ils vous regardent quoi. Ils ont un regard franc sur celui qui les regarde aussi. C'est quelque chose qui interpelle. Est-ce que toi tu voulais donner du sens, ou ça t'est venu spontanément de faire des chats qui regardent?
Alors déjà les chats, quand on rentre dans les box de la SPA ou ailleurs, la plupart, ils viennent vers vous en vous regardant. Mmh. Ou alors, ils vous regardent parce qu'ils se demandent pourquoi vous êtes là, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Ils ont un petit peu peur. Donc forcément, ils sont fixés sur vous, quoi. Mmh. C'est ce que j'ai voulu un petit peu traduire. Et mes croquis, je les ai faits soit sur place, soit avec des photos. Ah, donc j'ai d'abord commencé par prendre une photo du chat qui me regardait. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il vous regarde.
Oui, c'est quelque chose. Et même certains chats ont des yeux... Je me souviens d'un chat qui a les yeux verts. Ouais. Ça interpelle, c'est quelque chose de presque hypnotique. Et puis, on les sent dans le mouvement, quoi. C'est cette espèce de spontanéité que j'ai eu l'impression de voir sur le papier de ton geste. C'est la spontanéité. Et en fait, en même temps, ça a traduit aussi quelque chose du chat. C'est esthétique et à la fois quelque chose de très mobile.
Alors le croquis, ça permet justement de mettre en avant la personnalité du chat ou de la personne qu'on dessine. Mmh. Et c'est vraiment un dessin qu'on fait sur le moment présent et en 1 minute, 2 minutes.
En même temps, c'est intéressant parce que ça reflète aussi ton travail de bénévole, puisque ça t'a incité en fait à t'exprimer avec ce que tu sais faire, avec voilà ton art, à t'exprimer sur ce que tu vivais en tant que bénévole, ces rencontres en fait avec des chats qui avaient été trouvés, des chats errants, des chats abandonnés.
Le travail de l'artiste est à la fois de faire des belles choses, des choses esthétiques, mais c'est aussi montrer aux personnes, aux spectateurs, ce qu'il a envie de montrer, quoi, de montrer la réalité des choses. Montrer ce qui le passionne, montrer le monde. Donc, ça me paraît normal d'utiliser ce que je sais faire pour mettre en avant des choses qui me semblent importantes à montrer.
Oui. Je voudrais juste revenir sur la toile de ton exposition, cette grande toile qui est accrochée. Alors je vous laisserai la découvrir, c'est plus intéressant d'aller la voir que je vous la décrive. Et il y a un tout petit panonceau en dessous où on peut lire, je te cite, hein, « Magnifique Auguste, chat noir que personne ne voit, tu erres dans les rues et les jardins de la ville, tu dors à la belle étoile l'hiver comme l'été et tu te nourris de ce que l'on veut bien te donner. » Je te dessine dans les anémones, symbole de l'abandon, et les ancolies, symbole de la solitude et de la tristesse. Tu es l'allégorie de tant d'autres chats invisibles. Et c'est vrai que moi d'abord, j'ai pas vu Auguste dans le tableau. En tout cas, en tant que spectatrice, j'ai pas vu Auguste. J'ai vu Auguste. Comme si toi, par ton regard, ton attention, tu nous focalisais à nouveau sur ces chats qui sont, le plus souvent invisibles.
Oui, et Auguste est noir. Et là, je l'ai fait en plusieurs fois, caché plus ou moins, enfin on voit quand même sa forme, en blanc.
Tout à fait. Et non, c'est un travail qui est vraiment... ça accroche, quoi. On a envie de rester, de les regarder. Ça reste, c'est vraiment formidable. Et je crois que ces œuvres-là qui sont exposées donc à l'arrière-train, c'est des œuvres dont le produit de la vente, tu souhaites faire quelque chose avec.
Sur chaque tableau, enfin chaque cadre vendu, je verse 10 euros à une association, par exemple ton association.
Voilà. Ou une autre, hein, mais
ou une autre.
Mais oui. Donc c'est quelque chose. C'est intéressant parce que ça part de ton vécu de bénévole que tu exprimes par ton essence d'artiste,
ma façon de m'exprimer,
et qui revient quelque chose pour les chats, quoi. C'est vraiment, ça part des chats et ça revient aux chats, finalement, aux chats les plus les plus dans le besoin.
Alors ça peut être des chats comme un autre animal, hein. Mais bon, c'est vrai que les chats, c'est l'animal qui nous entoure le plus
et auquel tu es sensible, finalement, parce que tu en connais depuis très longtemps, depuis que tu es toute petite.
J'ai toujours eu des chats, sauf une courte période de ma vie où j'avais pas le temps de m'occuper d'un chat, j'étais dans un petit appartement, voilà.
Okay. Eh ben, écoutez, c'est quelque chose. En tout cas, allez-y, allez voir à l'arrière-train. C'est un petit café sympa, l'ambiance est vraiment chouette. Et se poser et regarder, ça nous fait penser à notre rapport aussi aux animaux, je trouve, à ce qu'on est. Bon, on arrive à la fin de cette chronique, Olga. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour terminer notre entretien?
Eh bien, aller à l'arrière-train, c'est un bar-tabac vraiment sans sas, avec des gens très très sympas.
Je confirme.
Et essayez de bien vous occuper des animaux qui vous entourent et qu'on ne voit à peine.
On pourrait pas mieux dire. Merci, Olga.